Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Diagnostic, ordonnance, protocole, chirurgie, dialyse, amputation. Chaque jour, la santé est au cœur de notre émission pour comprendre comment la maladie agit sur l'organisme et décrire les différentes options pour la prise en charge. Les outils scientifiques évoluent avec le temps et les certitudes d'hier sont balayées par les découvertes les plus récentes. Et si la médecine nous semble toujours plus performante, la science ne trouve pas de réponse à toutes les questions. Et cela peut paraître assez paradoxal. On semble mieux accepter l'échec de la médecine à guérir certaines maladies que d'admettre certaines guérisons inexpliquées. C'est précisément sur ces phénomènes étranges de guérison que nous nous arrêtons aujourd'hui. Mystère qui nous pousse à nous interroger sur la façon dont l'organisme se bat pour venir à bout d'une pathologie. Qu'est-ce qui détermine une résistance supérieure à telle ou telle infection ou à l'inverse, la multiplication des symptômes chez un individu. Des questions qui portent sur le rôle de la confiance, de l'espoir, de l'imagination, ces différentes ressources qui favorisent le rétablissement sur les pouvoirs de l'esprit sur le corps. Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, c'est le titre de votre livre. Professeur Patrick Clairvoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, ancien professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à l'école du Val-de-Grâce. Votre ouvrage est publié aux éditions Odile Jacob. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Sénégal, avec le docteur Koudia Sow, médecin en santé publique et anthropologue à Dakar au Sénégal. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Le numéro de Priorité Santé pour vos témoignages, pour poser vos questions, c'est toujours le 33 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Alors on va le comprendre hein, pendant cette émission, livre foisonnant, très riche, notamment en références historiques. Professeur Patrick Clairvoy, comment un psychiatre envoyé par le passé sur des théâtres d'opérations militaires pour exercer, hein, Bosnie, Afghanistan, Mali, j'ai bien lu votre CV, c'est ça, qui a travaillé aussi pour l'OTAN, en vient à se pencher sur les mystères de la guérison?
J'ai été témoin de plusieurs phénomènes de rétablissement de gens qui avaient été gravement affectés par la guerre. Et ma première expérience, c'est comment les gens se relèvent des traumatismes. Et là, déjà, il y a une inégalité avec des gens qui se relèvent avec une vigueur inattendue et ceux qui n'y arrivent pas. Et parfois, ça n'est pas du tout proportionnel à ce qui a été blessé. Et puis, il y a aussi tout ce que j'ai rencontré dans l'univers hospitalier. Et puis, quand j'étais en République centrafricaine, par exemple, ou quand j'étais en Guyane, j'ai aussi fait des soins au service de la population. Et j'ai dû renoncer à des certitudes de la médecine occidentale pour accepter de voir et de comprendre des phénomènes pour lesquels j'avais à rentrer avec un autre équipement culturel pour pouvoir comprendre comment ça se passait.
Vous pouvez nous citer un exemple? Vous parliez de la République centrafricaine.
Alors, c'est vrai que quand on arrive, par exemple, j'avais un sirop antitussif qui faisait des miracles sur place parce que je soulageais très rapidement des enfants qui faisaient des complications, des surinfections respiratoires sur des infections banales de l'enfance, en Europe en tout cas. Mais en même temps, j'avais le sentiment que je ne faisais pas tout ou que mes soins étaient incomplets, et je voyais bien plutôt dans ma relation, pas avec les enfants malades, mais avec les mères qui les accompagnaient, j'avais le sentiment que je passais à côté de quelque chose et que la rencontre ne se faisait pas. D'où aussi toute cette curiosité, et il y a ce livre qui pour moi est un livre fondamental, « Les yeux de ma chèvre » de Éric de Rauny, où il raconte son initiation comme guérisseur, et où tout d'un coup je comprends que si on ne se fonde que sur les certitudes de la science, ah, on fait bien notre boulot. Mais on n'en fait que la moitié et surtout, on néglige des ressources thérapeutiques, un gisement de force pour guérir immense et qu'il est ridicule de ne pas savoir solliciter.
Professeur Patrick Clairvoy, cette vision des choses, elle est propre à votre spécialité, la psychiatrie, ou elle est propre à votre humanité?
Alors, je vais renverser votre question. Bon, c'est clair que l'un et l'autre m'ont beaucoup aidé, mais je suis rentré en psychiatrie en rencontrant la veuve d'un très grand psychiatre français qui s'appelait Henri Hay. Et Henri Hay disait avec humour, la médecine fait partie de la psychiatrie. Sous-entendu, la psychiatrie n'est pas une discipline médicale, mais tout médecin se doit d'avoir des connaissances psychiatriques. Et à son époque, beaucoup de psychiatres étaient des gens qui faisaient des licences ou des doctorats en philosophie. Donc c'est clair que une forme d'érudition, une éducation, une culture en humanité est indispensable, justement pour ne pas avoir ces œillères qui disent « je ne crois que ce que je vois dans mon microscope ». Celui qui dit ça, il passe à côté des soins et je pense qu'il soigne mal. Et je dis d'ores et déjà mon inquiétude quand je vois, par exemple, l'arrivée de la tarification à l'activité dans le domaine médical, par exemple. Ça veut dire qu'on demande aux médecins de faire du rendement. Je me souviens d'un papier, un médecin professeur de cardiologie ou de médecine qui revient du Vietnam pour se faire hospitaliser pour une complication cardiaque à Paris et qui raconte son hospitalisation et dit « mon confrère, je ne l'ai pas vu plus de 2 minutes par jour. L'infirmière, je l'ai vu 3 fois 3 minutes au moment de la distribution des médicaments. » Et le temps de parole, c'est un temps qui passe de plus en plus comme étant un temps superflu. Et c'est faux. Je me souviens d'avoir des difficultés à faire comprendre qu'en psychiatrie, bah parfois, c'était pour certains soignants s'asseoir à côté du patient et discuter, ce qu'on pourrait appeler faire du blabla. Mais ce blabla a une portée thérapeutique. Et je me souviens que là où j'ai le plus appris en médecine, c'est quand le patron prenait une chaise, s'asseyait à côté du lit du patient et disait « qu'est-ce que vous voulez entendre ?» Et nous, externes et internes qui étions à côté, on comprenait que pour qu'un soin soit opérant, il fallait que le patient, mentalement, en ait la représentation. C'est-à-dire qu'il soit à même de visualiser ce que l'on fait dans son corps, ce que l'on produit sur lui. Et à ce moment-là, il devient co-acteur des soins. Et co-acteur des soins, son énergie propre vient s'ajouter à celle du médecin. Et là, on multiplie justement les chances de guérison.
Alors tout à l'heure, je disais que vous parliez justement beaucoup d'histoire. Vous avez utilisé le terme philosophie. Et vous citez justement, professeur Patrick Clairvoy, dans votre livre, tous ces grands penseurs de la médecine, qui justement sont passés par un apprentissage, une école philosophique, avant d'en arriver à la science dure. Et là, on peut dire qu'ils ont apporté une part en plus.
Oui, alors j'ai beaucoup insisté notamment sur l'un d'entre eux, qui est Charles Lassaigue. Charles Lassaigue, d'abord, c'était un professeur de philo. Et puis, c'est par des effets de rencontre, finalement, qu'il s'inscrit pour faire médecine. Et il devient celui qui accompagne Claude Bernard dans son expérimentation, ce qu'on appelait la médecine expérimentale. Claude Bernard, c'est le premier à avoir amené la rigueur scientifique dans l'observation des phénomènes de maladie et des traitements. Mais justement, à côté de lui, il y avait Charles Lassaigue. Et Charles Lassaigue, chaque fois que Claude Bernard faisait une démonstration, Lassaigue aidait les élèves à la comprendre en fonction justement de ceux aussi dont nous sommes héritiers. Et une médecine qui se coupe de l'histoire de la médecine est une médecine qui redevient aveugle. Oublier son histoire, c'est répéter les erreurs qui ont été faites par le passé. Et moi, je milite aussi pour que les étudiants en médecine apprennent l'histoire de leur discipline.
Alors, on va rentrer dans le cœur de votre ouvrage avec cette citation, professeur Clairvoy. Lorsque l'on observe les phénomènes à l'œuvre dans une guérison, si on enlève ce que font les machines et les médicaments, il reste une part inexplicable, une part de mystère. Alors justement, il y a tous ces phénomènes étranges, hein, vous les citez, vous les examinez même dans le livre. Miracle, stigmate, placebo, méthode Coué, magnétisme, on va en reparler. En tout cas, des cas assez éloignés des préoccupations, je dirais, ordinaires de la médecine occidentale aujourd'hui.
Tout à fait, alors que ce sont par exemple les premières préoccupations que l'on entend dès qu'on quitte l'Europe et dès qu'on va sur d'autres territoires de notre univers. Mais cette guérison qui se fait sans les soins, on la regarde comme négligeable. Je vais donner juste un exemple. C'est pendant toute mon éducation médicale, le placebo, c'était l'effet parasite à enlever. Ça veut dire que l'effet placebo, c'est ce qui nous empêchait de voir ce que produisait réellement un médicament. Et aujourd'hui, on change de perspective. Alors, on peut toujours dire autosuggestion, tout ce qu'on veut, mais premièrement, l'effet placebo, si on donne certaines molécules qui inhibent la chaîne de réaction des opiacés, on inhibe l'effet placebo. Ah, ça veut donc dire que S'il y a un médicament qui empêche l'effet placebo, c'est que l'effet placebo, c'est bien un processus neurochimique intéressant. Lequel ? Et aujourd'hui, on sait regarder en neuroimagerie ce qui se produit dans le cerveau quand il y a l'effet, par exemple, de suggestion, quand il y a l'effet placebo. Et ce qui est génial, c'est l'effet placebo, vous savez qu'en moyenne, c'est 30% des effets thérapeutiques. Entre 30 et 60%, 30 à 60%, c'est pas le médicament. C'est le placebo. Et dans le placebo, vous mettez la confiance qu'a le patient dans le médecin, la confiance qu'a le médecin dans la maîtrise de son savoir, la confiance que le patient et le médecin ont dans le médicament qui est donné. Ben, si la confiance, ça aide à guérir dans 30 à 60% des cas, animons-la cette confiance. Prenons du temps et apprenons aussi aux jeunes médecins d'aujourd'hui à nouer cette relation de confiance.
Mais ce qui est étonnant, professeur Clairvoy, c'est qu'on imagine, dans un service de pédiatrie, on dit communément aux mères, restez avec votre enfant, il ira mieux. Par contre, on n'entend pas cette relation entre le soignant et le patient. Établissez une relation de confiance, et d'ailleurs pour ça, il faut peut-être un petit peu de temps, avec votre patient, et ça ira mieux aussi d'une certaine manière.
Oui, mais vous l'avez dit, il faut, quand vous dites un petit peu de temps, j'avais envie de vous dire, il en faut même beaucoup. Aujourd'hui, les nécessités économiques ou la gestion économique de la santé fait que on va enlever le maximum de temps qui peut apparaître superflu. Mais le médecin qui prend le temps de dire à son patient, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Posez-moi des questions. Alors, c'est vrai que c'est aussi assez particulier. J'ai fait beaucoup d'accompagnements des gens qui avaient de maladies cancéreuses. Et c'est vrai que les patients, quand ils sont devant leur médecin, ne peuvent plus parler. Le psychiatre que j'étais, qui les accompagnait, il me posait des tas de questions. Mais j'avais dit, mais posez-les à votre thérapeute, à votre oncologue. Et devant l'oncologue, il n'y arrivait pas. D'où aussi l'importance que cette relation médecin-malade soit aussi médiatisée par un tiers. Le tiers, c'est le psychologue, c'est la famille. Si la personne est âgée, ce sont ses enfants. Si la personne est jeune, ce sont ses parents. Et il est évident que, par exemple, puisque vous avez parlé des soins aux enfants, le médecin, certes, a noué la relation avec l'enfant, mais surtout, surtout, qu'il noue la relation la plus favorable possible avec les parents de cet enfant. Parce que s'il y a l'alliance, notamment avec la mère, là, les soins seront beaucoup plus faciles et l'enfant, en confiance, mettra toutes ses forces pour guérir. Et ce que je voulais souligner, c'est que, de façon assez étonnante, les forces, la source d'auto-guérison est encore plus forte chez l'enfant parce qu'il n'a pas toute l'inhibition que la culture peut mettre en lui, surtout dans notre société occidentale.
Alors justement, médecine occidentale, médecine moderne, il y a d'autres courants, hein, vous citiez tout à l'heure d'autres régions où c'est pas vraiment les mêmes priorités, c'est pas le même contexte, certaines sociétés qui intègrent au contraire ce pouvoir de l'esprit. Professeur Patrick Clairvoy, même jusqu'à en faire le moteur du processus de guérison. Finalement, on va dire que la potion n'est qu'un prétexte, n'est qu'un alibi.
Oui, alors, je n'ai plus le mot en tête, je l'ai mis dans le livre, mais c'est encore Éric de Rony qui le raconte, et qui dit que la potion, c'est un prétexte, et que ce qui compte, c'est le travail qui se produit dans la personne pendant le processus thérapeutique. Et le médecin ne peut pas être absent d'un rôle de guérisseur. Et l'art du guérisseur qu'a le médecin, c'est l'art d'amener le patient à l'état psychique, mais aussi physique avec certaines substances qui sont données, de l'amener à un état où il est propre à être guéri. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la plupart des substances utilisées aujourd'hui en médecine ou qui ont inauguré les grandes familles de médecine, ce sont des substances qu'utilisaient depuis très très longtemps les alcaloïdes, des plantes, des guérisseurs africains par exemple.
Alors, vous remettez en quelque sorte le soignant à sa place, hein, vous écrivez « Le médecin contribue à lutter contre le mal, mais le processus de guérison n'est pas de lui ». De premier abord, ça peut paraître compliqué à comprendre, mais quand on y pense, on s'arrête de plus près, vous avez une image qui est absolument, c'est aussi simple que percutante, vous parlez de la cicatrisation et du geste chirurgical en cicatrisation. En gros, suturer, c'est bien, cicatriser, c'est mieux.
Oui, alors là où on remarque l'efficacité de ça, ou cette pertinence à distinguer ce qui est fait de l'extérieur et ce qui vient du patient lui-même, c'est quand on voit les processus où la cicatrisation ne se fait pas, où la guérison ne se fait pas. Quand il y a une coupure, que va faire le chirurgien ? Avec une suture, il va rapprocher les berges de la plaie pour qu'à nouveau, elles soient réaccolées l'une à l'autre. Mais le processus de cicatrisation, c'est-à-dire la création de ce tissu nouveau qui va refermer la plaie et refaire la peau telle qu'elle était avant, et voire même dans certains cas, on ne voit plus rien, ça exige qu'il vienne du corps toutes les substances qui vont la refabriquer, ce nouveau tissu de chair qui va faire la cicatrisation. Et à l'inverse, vous avez certains états dans lequel la cicatrisation ne se fait pas alors qu'elle devrait se faire. Et on sait en général, par exemple, que beaucoup de maladies métaboliques, comme par exemple dans le diabète, ou dans certaines maladies compliquées, où il y a des troubles métaboliques, par exemple, liés à l'alcool, la cicatrisation ne se fait pas. Autre exemple spectaculaire, c'est la fracture. Une fracture osseuse a une tendance spontanée à se réparer aussitôt que le membre est immobilisé et les deux bouts réalignés l'un avec l'autre. Eh bien, vous avez des gens pour lesquels ça ne se répare pas. Et j'allais dire, c'est cette obstination à ne pas guérir qui m'amène à comprendre que quand il y a guérison, il y a bien un processus qui a été animé et qui fabrique la guérison. Et ce processus, il vient du corps du malade.
Le corps du malade et pas mal de mystères que vous soulignez dans votre livre. Peut-être que certains trouveront ça assez ésotérique. En tout cas, c'est très intéressant. Mystère, interprétation. Le religieux, des fois, qui vient au secours quand il n'y a pas d'explication, avec pas mal de miracles que vous citez en exemple. Et tout de suite, cette illustration.
L'histoire de Lourdes a commencé en février 1858 avec la merveilleuse histoire de Bernadette Soubirous. Parce que la Vierge lui était apparue, une fillette de 14 ans, née dans la maison d'un pauvre meunier, allait faire de son pays natal un des hauts lieux de la chrétienté. Devant la grotte des apparitions, les premiers pèlerins se recueillaient. Et la foule de Lourdes, la foule de ceux qui viennent chercher la guérison ou simplement prier, ne ferait que grandir au cours de l'année. Des millions d'hommes et de femmes venus du monde entier, de l'ancien comme du nouveau, allaient dessiner, nuit après nuit, l'interminable procession de l'espoir. La première cérémonie avait réuni l'immense foule de ceux pour qui le miracle reste la grande espérance. Venus par groupes d'Europe, d'Amérique, les pèlerins avaient décuplé la population de la petite cité pyrénéenne. Au matin d'une journée ensoleillée, devant l'ancienne basilique, l'esplanade était comble. Et Lourdes, jusqu'au soir, retentissait d'une même prière, dite par une voix innombrable. Une autre grande journée devait marquer dans les annales de l'année du centenaire. Celle qui vit réunie devant la grotte miraculeuse 40 000 soldats appartenant à 10 nations.
Un extrait du documentaire Lourdes 1958, l'année du centenaire des apparitions, puisé dans les archives de l'INA. On l'a dit, beaucoup de miracles dans ce livre, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps. Professeur Patrick Clairvoy, médecin psychiatre, ancien professeur à l'école du Val-de-Grâce, vous écrivez, page 311, « Les foules accoururent à Lourdes, les premières guérisons miraculeuses furent observées. Rapidement, le lieu fut voué aux malades et aux infirmes. » Est-ce que finalement le miracle existe parce que l'on y croit ou parce qu'il existe ?
Et alors, il faut bien accepter que c'est comme l'œuf et la poule, Il faut bien accepter que les deux formulations que vous m'avez dites sont exactes. Alors, quand on parle, par exemple, moi j'ai une petite entourloupe pour contourner cette question. Comme on dit, c'est dans la tête ou c'est dans le corps ? C'est psychique ou c'est somatique ? Mais je dis, c'est comme la pièce de monnaie qui a pile et face. On ne peut pas regarder sur une pièce de monnaie à la fois ce qui est pile et ce qui est face.
Oui, mais quand vous dites c'est la tête ou c'est le corps, il y a un absent dans les deux. C'est Dieu quand même.
Alors,
mais non, je sais pas, mais
oui,
je...
mais alors le mot Dieu, c'est un mot qui recouvre quelque chose qu'on ne peut pas saisir, et on comprend que dans certaines religions, par exemple, on est banni la représentation de Dieu, l'image de Dieu, etc. Parce que c'est, j'allais dire les choses simplement, Dieu, c'est une abstraction.
C'est réducteur.
Voilà, et que l'émerveillement. Alors, je vais en parler tout de suite, mais il se trouve que chaque fois qu'on stimule l'émerveillement du divin chez quelqu'un, depuis les Grecs, et quelles que soient les religions, on produit dans le corps un état de renouvellement de l'énergie qui aide à la guérison. Et déjà, du temps des Grecs, il y avait des protocoles thérapeutiques très précis qui nouaient pour le malade une relation avec les forces surnaturelles, on va dire. Et finalement, quand on dit que la médecine est née d'Hippocrate, Hippocrate, c'est le premier médecin qui écrit des traités dans lesquels il n'y a pas une seule fois le mot Dieu. Et il dit, pour soigner les gens, revenons à la nature. Et c'est vrai que l'introduction de la notion de Dieu ou de religion en médecine a été longuement critiquée parce qu'il y a eu des foules de charlatans et de gens qui ont empêché la médecine de se développer, notamment d'avoir un développement scientifique, si je puis dire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de réintroduire le divin, si je puis dire, dans la culture humaine, surtout la nôtre occidentale, parce qu'on se prouve de ressources importantes. Si on est...
Par divin, vous entendez peut-être davantage spirituel, ou du moins cette dimension imaginaire. Vous parlez beaucoup d'imagination, justement. Redonner sa place à l'imagination.
Oui, alors la spiritualité... On ne peut pas, je n'associe pas spiritualité et imagination, mais c'est clair que la spiritualité nourrit d'une énergie formidable l'imagination, Eva Heidegger. Mais aujourd'hui, il serait temps de réintroduire justement le... Malraux avait dit qu'au XXe siècle, il fallait réintroduire le divin dans l'homme. Mais il faut réintroduire que nous portons en nous-mêmes des forces qui dépasse ce que nous avons, un, la capacité de comprendre, deux, la capacité d'animer par nous-mêmes. Et il y a la vraie question, qu'est-ce qui fait que dans certains états de conscience modifiés, bon, pour parler des plus simples, la méditation, la relaxation, il y a, aujourd'hui, ça, c'est une grande mode, tout ce qui est relaxation, hypnose, etc. Mais ce sont bien là des états de conscience modifiés dans lesquels il se produit quelque chose au niveau du cerveau. Et je donne un exemple. Comment l'état de conscience dans lequel on est produit une amélioration d'un symptôme. Par exemple, quelqu'un sous hypnose, si on lui dit qu'il ne ressentira rien lors d'une intervention chirurgicale, il ne ressent rien. Et ça, la médecine occidentale l'a déjà évalué. Mais comme on ne le maîtrise pas, on n'est pas capable de garantir à quelqu'un qui va subir, par exemple, une opération d'appendicite. On n'est pas capable d'assurer que son état d'hypnose sera constant pendant toute la durée de l'acte chirurgical. Donc, oui, ça a été tenté, ça a été réussi, mais on ne sait pas encore le standardiser dans les soins. Mais par exemple, je suis pour qu'on apporte beaucoup plus de ces approches thérapeutiques autour de l'hypnose. Et par exemple, pour moi, ce qu'on appelle l'EMDR aujourd'hui, qui est une technique de soins qui se développe beaucoup, par exemple sur le traumatisme, l'EMDR, c'est une reprise de l'hypnose.
Avec justement le mouvement des yeux.
Le mouvement des yeux. Alors oui, aujourd'hui, on va vous expliquer qu'en neuroimagerie, on voit que quand on fait ces mouvements des yeux, on reprend un mécanisme qui se produit pendant la phase de sommeil paradoxal où il y a ces mouvements rapides oculaires. Mais en même temps, toutes ces techniques-là, elles sont utiles parce qu'elles vont ajouter à ce que la science fait bien. Et donc, oui, il y a les progrès de la science, mais réutilisons ce que l'on fait et sait faire depuis le passé.
Enrichir la boîte à outils.
Absolument.
Professeur Patrick Clairvoy, on va vous retrouver pour continuer de parler des mystères de la guérison, juste après cette pause musicale avec You Can Stop the Rain, William Brutus. Come on.
Wish live in your mind. You dwell on the past. Regrets comes too late. There's so much problems to ride to this challenge. So boy, use your brain. Regrets are waste all the time. And now it's too late to apologize to your brothers and your sisters. Never forget that thing. Never forget that thing. You can stop the rain. You can stop the rain.
Not today. Yeah. Not the way. Anyway. Yeah. Leave the good choice. Not today. Not the way. Anyway.
Come on.
Leave the good choice.
Wow.
brain gon' fall. Seems that we resigned and still survive through it all. Objective was to ball, but every player needs some coaching. Cause talent ain't enough when only thing you do is loafing. Plans is put in motion, few is followed to the end. Derailed by your distractions and the shade from faking friends. But I contend where y'all gon' get what's rightly coming to us. I pray to God to share his grace, the light is shining through us. We can do this, success is not a promise. As quick as we can come up, then the government can bomb us. And caught up in on drama, we gon' make it anyway. I'ma pass it back to Williams, tell him what you got to say. Come on.
William Brutus avec You Can Stop the Rain. On vous retrouve, professeur Patrick Clairvoy, médecin, ancien professeur de psychiatrie et psychologie médicale à l'école du Val-de-Grâce. Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, votre livre publié aux éditions Odile Jacob. On en feuillette en quelque sorte les grands thèmes. Hein. Vous consacrez notamment une large part à quelque chose dont on parle assez peu, normalement, quand on est médecin, c'est l'énergie vitale. On attend davantage ce genre d'expression dans la bouche d'un chaman. Professeur Clairvoy, c'est quoi exactement l'énergie vitale?
Alors, l'énergie vitale, ça résumerait l'ensemble des forces qui nous poussent dans la vie. Vous voyez, c'est une définition qui peut être assez simple. Mais l'énergie vitale, c'est ce que l'on voit dans une graine qui germe, par exemple. C'est ce qu'on voit dans une chenille qui se développe et qui se transforme pour être papillon. L'énergie vitale, c'est deux choses en même temps. C'est une force et c'est en même temps une programmation. C'est ce qu'on appelle la téléonomie. Ça veut dire que il y a quelque chose qui fait que, ici et maintenant, je suis animé d'une force pour produire quelque chose et prolonger mon existant d'ici une heure, un jour, dans un an, dans deux ans. Et cette énergie vitale, soyons clairs, on ne sait pas quelle est la source.
Est-ce qu'avant, on prenait davantage en compte, quand je dis avant, on remonte très loin dans le temps, hein, on va parler d'histoire médicale. Professeur Clairvoy, est-ce que c'était quelque chose qui était admis, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel, en quelque sorte, on a mis un couvercle?
Oui, alors c'était admis parce qu'on n'avait que ça pour soigner les gens. Et alors il y a ce très très beau texte de Charles Lassègue qui s'appelle « Études sur le vitalisme » où il dit « Les anciens n'avaient que le vitalisme pour soigner, mais parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'autres ressources thérapeutiques à côté. Aujourd'hui, on a des ressources thérapeutiques considérables. On sait faire des anesthésies qui durent plusieurs heures, faire des interventions sur le cerveau, sur le cœur avec un circuit extracorporel du sang. » On a des substances thérapeutiques. Aujourd'hui, on est capable de traiter certains cancers avec une approche spécifique génétique et non plus la lourde chimiothérapie qui tape un peu à l'aveugle sur toutes les cellules. Mais parallèlement à ça, on a donc une médecine hyper puissante, mais il y a aussi cette énergie vitale qui est la nôtre et sans laquelle on ne guérit pas. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que ne perdons pas de vue que quelle que soit la puissance à laquelle les moyens modernes nous donnent accès pour soigner des gens, n'oublions pas que derrière tout ça, cette puissance ne sert qu'à libérer les forces internes de la personne pour les restaurer. Et le principe très simple du vitalisme, c'est la chose suivante. C'est le but de la médecine, c'est de soulager le corps des forces qui l'empêchent de produire sa propre guérison. Et c'est des principes qui datent du passé. Marc Bloch a fait une étude sur les rois qui guérissaient les écrouelles. Les écrouelles étant les ganglions tuberculeux du cou. Le roi touchait les ganglions du cou, il disait à son sujet « Je te touchais, Dieu te guérit » et les sujets guérissaient des écrouelles. L'anecdote, c'est que ça a marché pendant 1000 ans, qu'il fallait que le roi fût sacré pour qu'il guérisse des écrouelles. Et ça s'est fait jusqu'à Charles X.
Vous dites ça a marché, mais sur quelle base, je m'excuse, c'est moi qui vais faire le rôle de la sceptique, sur quelle base vous savez que ça a marché?
Sur la base suivante, que les médecins, dans les traités de médecine de l'époque, avaient écrit « Si votre écrouelle ne guérit pas, allez demander au roi de vous la toucher. » Quand Louis XV a reçu l'onction qui lui a permis d'être sacré roi, ce jour-là, il a touché 3000 tuberculeux qui avaient des écrouelles et dont certains sont rentrés chez eux guéris. Et si Jeanne d'Arc avait mis une telle ferveur à ce que le roi, le dauphin, fût alla se faire consacrer à Reims, c'est parce que pour qu'il ait la possibilité de guérir des écrouelles, et que guérissant des écrouelles, on puisse dire, ben oui, c'est bien lui, l'héritier légitime, et pas le roi d'Angleterre. Et on retrouve ça aussi dans les écrits d'Ambroise Paré. Ambroise Paré disait, je le pensais, de pansement, PN, je le pensais, et Dieu le guérit. Et vous voyez bien que depuis toujours, les gens qui apportent des soins, c'était, moi, j'apporte ce qu'il faut pour que toi, tu puisses guérir avec tes forces intérieures.
Une fonction de médiateur, professeur voilà. Patrick Clairvoy. On va vous retrouver, on prend tout de suite la direction du Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Dakar, où l'on rejoint le docteur Koudiasso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin en santé publique, anthropologue, vous travaillez au centre de recherche de l'hôpital de Fane. Alors ces questions sur la guérison, elles se posent partout dans le monde, pas forcément les mêmes termes. Docteur So, vous êtes intéressé en particulier au suivi des personnes séropositives, donc qui vivent avec le VIH, avec des différences hein, chez ces personnes en termes d'impact, de retentissement des différentes thérapies.
Exactement, je pense que d'abord bonjour aux auditeurs de RFI. Je crois que la question de l'infection à VIH a apporté un plus par rapport à cette notion, toute cette réflexion sur la guérison, notamment sur cette dimension sociale. Je crois que les anthropologues ont pu analyser comment en fait une infection à VIH vécue en fonction des différentes contraintes sociales pouvait être différemment, en tout cas avoir un impact différencié sur les personnes en fonction de la qualité du suivi qu'elles avaient, de l'entourage ou bien du travail des associations qui faisaient que finalement cette dimension sociale de la maladie pouvait être en tout cas, ses effets pouvaient être amoindris. Et ce que je voulais dire, c'est que spécifiquement sur cette question-là, donc vous avez différents individus avec différentes histoires sociales, un contexte aussi médical d'accompagnement qui est différencié et qui va aboutir sur certains à une meilleure efficacité thérapeutique des mêmes molécules parce que ici il va y avoir du soutien, ici il va y avoir du lien social, ici il va y avoir un accompagnement et alors que là ce lien ne sera pas forcément rétabli. Donc je crois que en Afrique spécifiquement, en tout cas pour les maladies chroniques, ce groupe observateur organisateur de la thérapeutie, la qualité de l'accompagnement va avoir un effet important et qui va faire finalement que cette dimension subjective de la maladie va pouvoir être mieux vécue par le patient et va favoriser l'efficacité thérapeutique et puis bien sûr ce vécu globalisé.
Avec en Afrique de l'Ouest, docteur Koudiasso, nos auditeurs le savent bien puisqu'ils le vivent au jour le jour, cette coexistence des soins, cette coexistence des différentes approches thérapeutiques, différentes approches de soins donc, avec la médecine moderne, les tradis praticiens, l'un n'excluant pas l'autre.
Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous faisons face à ce qu'on appelle un pluralisme médical, avec une diversité d'offres de soins. Et finalement, on n'a plus un seul acteur, mais on a des acteurs qui vont, en fonction d'une recherche à la fois d'efficacité, mais aussi de sens. Et dans ce sens-là, la plupart des personnes, quand elles sont confrontées à une situation d'altération de leur santé, vont déterminer là où elles vont aller. Et en général, ce qui se passe, c'est que lorsque les services de santé sont accessibles à des coûts et à une distance avec une proximité des personnes, les gens vont aller dans ces services-là. Et c'est souvent pour des affections, ce qu'on pourrait dire, des maladies matérielles, où véritablement, vous voyez, une altération de la santé, vous avez une diarrhée, ainsi. Et là, lorsqu'elles sont bien prises en charge, cette médecine moderne, et comme ça s'est fait par exemple pour la question du VIH-SIDA, les gens sont, lorsque les médicaments ont été disponibles, lorsque les médicaments ont été accessibles, les gens sont allés vers ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans ce cheminement de soins, il n'y a pas d'autres recours thérapeutiques. Ces autres recours thérapeutiques peuvent être le guérisseur, le praticien, mais en général, ces aspects-là, parfois, c'est pour plus de spiritualité, c'est pour plus accepter ce que l'on pense être une affection et ce que l'on pense être l'étiologie de l'altération de la santé. Nous avons un maître en anthropologie, Jean Benoît, qui disait qu'il fallait soigner la représentation. Et dans le cadre des affections chroniques comme le VIH-SIDA ou, par exemple, la maladie d'Ebola, vous pouvez arriver très fréquemment à des personnes qui, sur le point de vue biologique, n'ont plus aucun signe, sont en rémission ou bien sont guéries. Or, sur le point de vue social, vous avez la stigmatisation qui fait que ces personnes ne se sentent pas bien. Donc, à ce moment-là, elles peuvent avoir recours à des personnes qui vont leur offrir une forme de spiritualité, un talisman, une prière, qui va leur permettre psychologiquement de se sentir mieux et de pouvoir faire face à cette affection-là. Donc là, véritablement, aujourd'hui, quand on parle de médecine traditionnelle, il faut savoir qu'il n'y a plus une médecine traditionnelle, mais il y a des médecines traditionnelles. Et de plus en plus, les médecins traditionnels, dits traditionnels, peuvent avoir recours à des méthodes tout à fait, ils peuvent s'approprier les méthodes dites de la médecine moderne. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, des thérapeutes qui vont consulter par WhatsApp, qui vont avoir un discours extrêmement médicalisé, là où d'autres vont se contenter de donner cette force spirituelle à travers des prières, des talismans, etc.
Docteur Koudiasso, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes médecin en santé publique, anthropologue à Dakar. On voit cette cohabitation des savoirs, hein, alors que dans votre livre, professeur Patrick Clairvoy, vous soulignez à travers l'histoire cette vision très normative de la science, de la médecine occidentale, qui n'a eu de cesse de chasser tout ce qui représentait de près ou de loin la superstition.
Oui, mais probablement parce que les médecins y ont vu des concurrents. Et dans le rejet par la médecine occidentale des ressources des thérapeutiques traditionnelles, c'est la chasse aux concurrents et que rien ne vienne leur enlever le privilège que leur accordait, le privilège social que leur accordait la fonction médicale. Par exemple, au début du XXe siècle, quand on a créé l'ordre des pharmaciens, c'était sous Vichy, ça a arrêté toute la tradition de l'herboristerie.
Qui revient d'ailleurs maintenant.
Qui revient sous
doucement.
Une forme très amusante, qui est les compléments alimentaires. Donc l'herbe n'est même pas soumise à la législation des médicaments, puisque c'est la législation des aliments qui est beaucoup plus souple. Et aujourd'hui, vous trouvez un certain nombre de substances, comme le millepertuis, directement, soit dans les pharmacies, soit dans les magasins spécialisés, qui n'ont rien à voir avec les pharmacies. Mais donc, il y a cette espèce de concurrence, et il en est resté quelque chose qui est que le médecin, spontanément, va se méfier de ce qu'il ne maîtrise pas, et il y a des médecins qui, parfois, sont très intolérants. Alors, les patients vont les voir en consultation, mais ils n'osent pas trop dire ce qu'ils font à côté. Mais si, dans la consultation, le médecin fait entendre « qu'est-ce que vous faites à côté pour vous soigner ?», vous avez un patient qui vous ouvre un large sourire et qui vous raconte. Alors, tout ce qu'il met en place à côté, les plantes, etc. Et il vous déballe sa propre pharmacie, si je puis dire. Mais en même temps, vous comprenez comment le patient intègre sa maladie, comment il la voit, comment il travaille à en guérir. Et à ce moment-là, la médecine devient beaucoup plus synergique et, à mon sens, beaucoup plus efficace.
Avec une dimension très importante dans tout ce que vous écrivez, dans tout ce que vous dites, c'est la dimension de confiance, hein, ce lien qui s'établit entre le prescripteur et le patient. Là, il y a cette dimension d'écoute et d'acceptation du savoir de l'autre, même si ce savoir n'est pas forcément scientifique, il peut être empirique, juste simplement se sentir mieux après un massage, après une tisane,
oui,
après un
moment. Si vous le voulez bien, des exemples très précis. J'ai une patiente qui vient me voir. Histoire professionnelle où elle est très en difficulté, elle déclenche ce qu'on appelle un zona. C'est très classique, stress aigu, zona. Et elle m'en parle, et puis à un moment donné, la relation de confiance est telle qu'elle en arrive à me dire bon, qu'elle est allée voir quelqu'un qui enlevait le feu. Donc j'en parle autour de moi, y compris à d'autres professeurs de médecine qui me regardent et qui me disent « Mais M. Clairvoy, c'est connu comme le monde. Moi-même, je suis allé voir quelqu'un qui a enlevé le feu quand j'ai fait un zona. »
Je ne vous parlerai pas de ma vie privée.
Voilà. Mais donc, La question, c'est, je suis incapable de vous expliquer pourquoi des personnes peuvent enlever le feu. Y compris le vrai feu, c'est-à-dire que vous avez une brûlure liée à un truc de cuisine ou quoi que ce soit, ces personnes vous enlèvent l'effet de la brûlure. Alors, la vraie question, c'est, quel est le savoir, quel est l'acte thérapeutique de cette personne qui arrive à enlever le feu? Alors, vous avez toujours les incrédules. Mais si vous prenez, par exemple, les gens qui marchent sur des braises, aujourd'hui, toute une série d'expérimentations scientifiques sont allées valider le fait que, avec un état psychique particulier, une certaine préparation mentale, des gens peuvent marcher 20 mètres pieds nus sur des charbons ardents et, au sortir de ces 20 mètres, avoir la plante des pieds intacte. Je le raconte au début du livre. Ça fait partie des choses qui m'ont dit, mais il y a des phénomènes qui sont assez rares, mais quand on sait les observer, ils vous disent qu'il peut y avoir des états du corps dans lesquels on se guérit ou on n'est même pas malade du feu alors qu'on a appliqué la braise sur la peau.
Avec juste un petit bémol, hein, bien sûr, sans qu'il y ait forcément d'échange d'argent ou qu'on incite tout le monde à faire la même chose sur ces choses dangereuses.
Absolument.
J'ai une dernière question en guise de conclusion. Est-ce que certains de vos confrères médecins ont lu votre livre ou vos notes préparatoires? Est-ce qu'ils vous ont fait part de leurs sentiments? Parce que, non pas que vous les écorchiez, mais des fois, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère face à tant d'incrédulité, professeur Clairvoy.
Alors, j'ai fait différentes conférences, notamment, par exemple, assez dernièrement, en médecine interne et des rhumatologues, des gens qui soignent la fibromyalgie. Ils ont beaucoup apprécié ma conférence et ils m'ont dit, dis-moi dès que ton livre sort, hein, on te réinvite.
Pour comprendre tout ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes.
Mais pour vous parler de cette confiance, un hommage à Boris Cyrulnik, parce que c'est Boris Cyrulnik qui faisait un cycle de conférences auquel il m'a invité à participer. Il a fait ce cycle de conférences sur la guérison. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu crois pas qu'on pourrait en faire un livre? Il dit, d'accord. Et je rencontre donc l'éditrice, Odile Jacob. C'était mars 2015. Et elle me dit, écoutez, d'accord, vous me donnez votre manuscrit. Est-ce que juin 2016, donc un peu plus d'un an, 15 mois, est-ce que ça vous convient? Je dis oui. Et puis j'arrive à juin 2016, j'ai pas produit mon manuscrit. Fin 2016, toujours pas. Juin 2017, toujours pas.
C'est là l'importance de l'espoir, hein, quand
voilà.
Même.
Et fin 2017, j'ai un coup de téléphone de Boris Cyrulnik qui me dit, mais Odile Jacob demande où vous en êtes de votre projet. Et là, j'ai fait, en 2 heures, j'ai fait les 10 dernières pages. Mais j'avais du mal à le lâcher, ce sujet, parce que je vous assure que c'est un vrai bonheur d'observer les guérisons. Et je dis, nous devons aussi nous nourrir de ces récits, de ces explications, parce que quand on lit ces récits et quand on peut être sensible à cette ferveur, à cette foi, on accepte l'idée qu'il y a des ressources énormes que nous ne connaissons pas. La modestie, nous ne les maîtrisons pas, mais en même temps, puisqu'elles sont là, prenons.
Merci beaucoup, hein, pour conclure cet échange, professeur Patrick Clairvoy, sur les mystères de la guérison, définition que vous proposez à la fin de votre livre, aux éditions Odile Jacob. La guérison, c'est se réconcilier avec soi et son état de santé. Oui. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien professeur de psychiatrie et de psychologie médicale à l'école du Val-de-Grâce. Et c'est le moment de vous retrouver, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali, à Bamako. Et on va parler aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire. Comment savoir justement si on souffre de ce type de trouble? On commence par la définition, le diminutif, on appelle ça aussi des TAC ou TAC.
Oui, tout à fait, on appelle ça les troubles du comportement alimentaire, ou TAC, c'est l'acronyme. Ça va être des perturbations à la fois du comportement et de la perception liée au poids et à l'alimentation qui vont avoir des conséquences psychosociales ou sur la santé importantes. Alors, il s'agit principalement des perturbations du comportement alimentaire, celles qui sont très connues, c'est la boulimie ou l'anorexie par exemple, mais c'est aussi les troubles de l'image corporelle associée à une obsession autour du poids et de l'alimentation. C'est le cas très classique de quelqu'un qui est mince, qui pense qu'il est gros, trop gros, et qui va adopter en fonction des comportements de restriction alimentaire qui ne sont pas adaptés à son état de santé réel. Donc, les parents doivent être très vigilants, c'est très important, parce que c'est souvent des troubles qui se manifestent à l'adolescence. Donc, il faut être absolument vigilant, mais il ne faut pas limiter cette vigilance dans son entourage à l'adolescence, parce qu'on sait aujourd'hui que ces troubles touchent aussi les adultes, et qu'en général, quand on arrive à l'âge adulte avec ces troubles, c'est qu'on y est passé beaucoup plus tôt et qu'ils sont installés beaucoup plus dangereux, entre guillemets, pour la santé.
Et quels sont justement les différents types de troubles du comportement alimentaire?
Alors, il en existe un très très grand nombre, je pourrais pas là tous les citer, ou alors il faudrait une chronique très très longue, mais allons revenons en gros sur l'essentiel. La première catégorie, c'est tous ceux qui sont liés à un apport excessif. Alors il y a le premier, c'est l'hyperphagie, c'est-à-dire que ça va être une prise alimentaire dans un repas trop importante parce qu'il va pas y avoir d'effet de satiété, c'est-à-dire de fin de la faim pour le coup. Il y a les grignotages, une prise alimentaire qui est pas liée à une faim, qui va se faire toute la journée, qui là aussi peut être pathologique suivant comment elle se déroule. Une qui est très connue, c'est la boulimie, c'est-à-dire que cette obsession entre guillemets de manger jusqu'à outrance, qui va même par moments jusqu'au vomissement, les gens se font vomir pour avoir une sorte de purge face à cette suralimentation. Ensuite, on a le deuxième, l'autre extrême, c'est les troubles liés à un apport alimentaire insuffisant. Et dans cette catégorie, le plus connu, hein, celui qui revient le plus souvent, c'est l'anorexie, qui est là une inhibition, on va dire, de la prise alimentaire, avec une absence de faim ou un refus de s'alimenter. Donc là, on va vers quelque chose qui peut aller relativement loin, être grave, s'il y a vraiment refus de s'alimenter. Elle a été, pendant très longtemps, on a dit que c'était une problématique purement des jeunes filles, et on s'aperçoit maintenant depuis des années que c'est faux et que ça touche aussi de plus en plus aussi les garçons, donc faut être vigilant de manière générale.
Il y a un nouveau terme qu'on entend de plus en plus, c'est celui d'orthorexie, on parle aussi de phobie alimentaire. Est-ce que ces deux choses bien différentes, en fait, ce sont aussi des troubles du comportement alimentaire?
Ah oui, tout à fait. Alors, l'orthorexie, c'est quelque chose qui est maintenant aussi très, très documenté. C'est un vrai contrôle obsessionnel de l'alimentation avec une sorte d'obsession de l'aliment sain permanent et du coup qui s'associe à des comportements, j'allais dire, de sursurveillance alimentaire, d'avoir vraiment des normes très strictes sur l'alimentation, mais aussi des fois sur l'hyperactivité physique pour être sûr de tout bien éliminer, qui du coup deviennent pathologiques. Et les phobies alimentaires, alors là, ce sera impossible là aussi de toutes les citer puisqu'il y en a des tonnes, mais on peut prendre quelques exemples. Ça va être par exemple la peur d'ingérer certains aliments, ça va être les couleurs d'aliments. Des gens vont dire, moi je veux pas manger ce qui est rouge, d'autres ce qui est vert. Ça va être aussi quelque chose qui revient très souvent, c'est des gens qui vont dire, moi je veux pas manger de choses crues, je veux les manger cuites, et puis inversement, des gens qui vont dire, cet aliment je veux le manger que cuit et pas cru. Et ça dépasse vraiment les croyances alimentaires, il y a vraiment des phobies alimentaires qui doivent être traitées.
Et comment savoir justement si on présente véritablement un trouble du comportement alimentaire?
Alors, il y a un score qui existe, qui est basé sur un questionnaire, on appelle ça le questionnaire de SCoF. Il y a 5 questions que je vais vous donner là, et s'il y a 2 réponses positives sur les 5, à ce moment-là, il faut consulter parce qu'il y a possiblement un trouble alimentaire et il faut aller voir. Donc la première question, c'est est-ce qu'on se fait vomir, enfin est-ce que vous faites vomir lorsque vous avez une sensation de trop-plein? La deuxième, c'est est-ce que vous êtes inquiet d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez, c'est-à-dire qu'un moment, soit on mange trop peu et on s'en rend compte, soit on mange vraiment beaucoup trop et on s'en rend compte. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en 3 mois? Puisque c'est vrai que les pertes de poids importantes et très rapides, si on ne fait pas un régime spécifique, sont souvent à surveiller. Vous trouvez-vous gros alors que les autres disent que vous êtes trop maigre, donc le problème lié à l'image. Et enfin, la dernière question, diriez-vous que la nourriture domine votre vie, qui là permet de voir si ça devient une obsession ou pas une obsession? À partir de ces 5 questions, s'il y en a 2 positifs, il faut pas s'alarmer trop, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un souci ou pas?
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et prépare votre émission. Assez Toussamaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'envenimation, piqûres, morsures, serpents, scorpions, scolopendres et autres petites bêtes. Pour poser vos questions, notre page Facebook et bien sûr le numéro de téléphone de l'émission 33 1 80 82 75 75. On attend vos appels et à demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.